Ça se passe à Paris aujourd'hui et jusqu'à demain à l'hippodrome de Longchamp avec Solidays. Ça se passera à Carhaix, à Belfort, La Rochelle, Saint-Malo, Saint-Cloud, des villes dans toute la France et des dates pendant tout l'été où se tiendront des festivals. Donc de la musique, des rencontres, de l'ivresse, de la boue et des réveils difficiles mais heureux dans le petit matin blême. Mais ça vient d'où ? Où et quand cette façon de vivre la musique a-t-elle été inventée ? Réponse, en 1967. Il y a donc 55 ans, et ça s'est passé en Californie, tout près de San Francisco, dans la ville de Monterey. C'est là qu'a eu lieu le premier festival pop de l'histoire. C'est là que s'est créée une pratique culturelle mondiale, reprise à Woodstock en 1969, à l'île de Wight en Angleterre, en Allemagne, au Brésil, en Italie. Et c'est donc en Californie que le modèle a été déposé. En 1967, le festival de Monterey est aussi la bande-son de ce qu'on appelle le Summer of Love, l'été de l'amour, qui réunit des milliers et des milliers de hippies dans un quartier de San Francisco qu'on appelle 8 Ashbury. À Monterey, pendant cet été de l'amour, la musique devient la bande-son d'une contestation et d'une utopie. Le rêve d'un monde meilleur, plus libre, plus pacifié, plus égalitaire, plus proche de la nature, moins consumériste. Ce message fut porté par Jimi Hendrix, les Beatles, Janis Joplin ou The Grateful Dead. Tous ont incarné cet espoir d'un monde nouveau avant qu'il ne s'effondre. Jusqu'à midi, on va s'attarder sur ce moment où la jeunesse y a cru. Bonjour, bienvenue, c'est Pop & Co.
France Inter, Rebecca Manzoni. Pop & Co.
Il y a le ciel, le soleil et le Pacifique. Bienvenue en Californie. Nous sommes en 1966 et depuis Los Angeles, les Beach Boys publient leur tube ultime. C'est Good Vibrations. De bonnes vibrations, comme un hymne de cette année-là. De bonnes vibrations irradiées depuis la Californie.
La Californie, c'est l'Eldorado américain. Finalement, la Californie, c'est l'Utopia Land.
Vous allez avoir cette voix dans l'oreille tout au long de ce Pop and Summer of Love. C'est Anaïs Fléchet, historienne et maître de conférences à l'université Paris-Saclay. Et on recommence.
La Californie, c'est l'Eldorado américain depuis le 19e siècle, et ça l'est encore au 20e siècle, et plus encore après la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est un État qui a connu une forte croissance économique. Ça apparaît comme un État de tous les possibles, en quelque sorte, et c'est là aussi où se réunissent de nombreux étudiants, puisqu'on a des grosses universités qui croissent. Et donc, finalement, la Californie, c'est l'Utopia Land. Un espace qui, depuis le début des années 1960, est connu pour l'émergence de mouvements contestataires. Et donc toute la nouvelle gauche américaine qui s'inscrit aussi dans cet espace californien et qui lui associe une forme de radicalité. Donc on a à la fois le soleil, l'hédonisme, et pour de nombreux jeunes Américains, partir à l'Ouest, c'est partir à la conquête d'un monde nouveau. Et bien sûr, quand on veut changer la vie, les regards se tournent vers la Californie.
En France, en 1967, il n'était pas encore question de changer la vie. En tout cas, pas encore. Mais depuis ici aussi, les regards se tournent vers la Californie. Le 2 mai 1967, pour l'émission Caméra 3, le documentariste Michel Honorin dresse le tableau des forces en présence à San Francisco.
L'Américain, on le reconnaît facilement à sa taille mannequin, sa grande gueule, ses cheveux coupés ras. Des gens bien propres, coincés entre leurs 6 chaînes de télévision, le climatiseur et l'œil électronique des water. Ici, c'est une Amérique un peu famélique, romantique et désordonnée. Une centaine de milliers de gars et de filles décident de vivre en marge, Et il se trouve pas mal de gars et de filles d'ailleurs, de l'Est et du Nord, pour claquer la machine à laver familiale, fuir la conscription vietnamienne et chevaucher vers l'Ouest. C'est la Nouvelle Bohème.
L'un des premiers rassemblements de cette Nouvelle Bohème a lieu au Golden Gate Park de San Francisco. L'événement s'appelle le Human Be-In. Ça se passe le 14 janvier 1967. L'été de l'amour a donc commencé en hiver. Pendant ce Human Be-In, il y a des lectures de poésie, du théâtre expérimental, 10 000 doses d'acide spécialement fabriquées pour l'occasion, et des concerts gratuits. Parmi les groupes présents, des représentants de la nouvelle scène de San Francisco, dont eux, Jefferson Airplane. When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies, don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love. Vous feriez mieux de trouver quelqu'un à aimer, scande Grace Slick, chanteuse de Jefferson Airplane. Après la ruée vers l'or au 19e siècle, San Francisco connaît la ruée vers l'amour au milieu du 20e. Une jeunesse, une nouvelle bande-son et une nouvelle philosophie résumées dans un mot composé. Ce mot, c'est contre-culture. Anaïs Fléchet.
Contre-culture, c'est vraiment un mot des années 60. C'est un mot qui apparaît au début de la décennie et qui désigne toute une série de mouvements de contestation. Donc la contre-culture, c'est d'abord contre la société américaine dans ce qu'elle a de plus conformiste, contre l'American way of life, contre l'individualisme triomphant, contre le capitalisme débridé.
Le consumérisme.
Le consumérisme. Donc c'est un rejet de toutes ces valeurs et aussi une remise en question très profonde de la société américaine et d'une certaine manière d'une civilisation, d'un système politique qui s'est complètement discrédité en envoyant tous ses enfants périr au Vietnam. Et donc il y a une forme de rejet des générations antérieures, du système politique, de la morale corsetée de cette société américaine. Donc il y a ce côté de révolte, mais il y a aussi une utopie derrière tout ça. Et l'aspect plus utopique, c'est la célébration de la liberté des corps, des esprits, la recherche d'un mode de vie plus authentique, qui soit peut-être plus proche de la nature aussi, et puis la volonté d'inventer des nouveaux modes de vie, des modes de vie communautaires, des modes de vie qui soient fondés à la fois sur le partage et sur le respect de chacun. C'est peut-être ça la dimension véritablement utopique, avec bien sûr en arrière-plan la libération des mœurs, l'amour libre, donc c'est aussi les expérimentations sur le plan sexuel, les partenaires multiples, enfin tout ce qui va à l'encontre des valeurs traditionnelles de la société américaine.
Voici la bande-son d'un bonheur à deux ou à plusieurs. L'un des tubes de cet été 67, c'est Happy Together, heureux ensemble donc, par les Turtles. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, so lose my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. It had to be. The only one for me is you, and you for me.
so happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together, so happy together. And how is the weather? So happy together, we're happy together.
Pendant l'été 67, dit été de l'amour, apparaît un nouvel archétype américain. Un archétype qui va devenir célèbre dans le monde entier aussi sûrement que les cow-boys et les indiens. On les appelle les hippies. Le 24 août 1967, les informations télévisées tentent d'expliquer à la France du général de Gaulle ce que ça veut dire.
Hippie. En français, le mot anglais hip veut dire mélancolique, abattu. Hip signifie hep et hippie-poura, la même chose qu'en anglais.
J'ai rien compris.
Les hippies, c'est un fait, sont assez mal vus. Ils se qualifient volontiers de drop-outs, les cancres. Les fleurs sont leur emblème et ils sont nés dans les années 65-66 dans les faubourgs de Los Angeles. Leurs 10 commandements, les voici. De la société, tu t'écarteras. De l'amour, tu t'occuperas. De la marijuana, tu fumeras. Les 7 autres commandements étant les corollaires des 3 premiers. And music, music, music.
Si la musique s'impose pour revendiquer un monde nouveau, c'est grâce à un événement fondateur de la culture occidentale. Ça se passe dans une ville côtière à 150 km au sud de San Francisco. Cette ville, c'est Monterey. C'est là que va se tenir le premier festival de musique pop de l'histoire, les 16, 17 et 18 juin 1967. Et dès le printemps, une chanson diffusée sur les ondes américaines va jouer le rôle de bande-annonce. C'est San Francisco, interprété par Scott McKenzie. En septembre 67, un Johnny Hallyday avec rouflaquette et collier de perles en fera une reprise.
Cette chanson, c'est vraiment la bande-son du Summer of Love, l'incarnation de cette utopie que peut représenter la Californie dans l'année 1967. C'est une chanson qui est intimement liée à l'organisation du festival pop de Monterey et qui, à l'origine, reprend un certain nombre d'images associées au mouvement hippie, à tout ce qui se passe à la fois à Los Angeles, mais surtout à San Francisco. Donc cette chanson, c'est tout simplement « Viens à San Francisco et n'oublie pas de mettre des fleurs dans tes cheveux. » Donc viens vivre cette grande transformation, cette révolution culturelle qui est en cours.
Viens vivre le nouveau monde.
Viens vivre le nouveau monde, viens participer à ce vent de liberté, en quelque sorte. Et c'est une chanson qui est tout de suite un très grand succès et qui frappe l'imaginaire des jeunes Américains, puisque avec cette chanson et avec la médiatisation croissante du mouvement hippie, tout ce qui se passe sur la côte ouest, commence une véritable migration de jeunes Américains qui se rendent à San Francisco pour essayer de vivre ce moment hippie et pas passer à côté de cette révolution culturelle qui est en train de naître.
Si tu viens à Monterey, le festival se tient sur le site du champ de foire de la ville. Il y a un Bouddha géant sur le site, à boire, à manger, des stands de bijoux artisanaux, 100 000 orchidées qu'on a fait venir d'Hawaï, et de la musique à fond. Anaïs Fléchet.
Ce qui est intéressant dans ce festival, c'est que pour la première fois, la musique pop a son festival. Donc c'est une légitimation du genre. Le pop gagne ses lettres de noblesse par son festival, en quelque sorte. Et c'est quelque chose qu'on verra d'ailleurs pour tous les autres festivals qui sont créés par la suite, hors même du domaine musical. À partir du moment où on crée des festivals de bande dessinée, c'est que la bande dessinée devient un art reconnu, etc. Donc il y a une logique de légitimation culturelle qui se joue. L'idée, c'est qu'on peut faire un festival pop comme on fait des festivals folk, comme on fait des festivals jazz, comme on fait des festivals de musique classique, puisque le modèle du festival, si on remonte loin dans le temps, c'est celui de Wagner à Bayreuth. Alors bien sûr, on est quand même un petit peu loin du festival de Bayreuth, tel qu'imaginé par Wagner à la fin du 19e siècle. Et finalement, cette revendication de respectabilité pour la musique pop avec ce festival de Monterey va devenir l'invention de quelque chose d'absolument nouveau, d'une nouvelle formule de festival qui n'existait absolument pas auparavant.
À ce moment-là, s'invente aussi une nouvelle presse musicale, comme le magazine Rolling Stone, qui est créé à San Francisco en cet été 1967. Il reste très peu de témoins de ce qui s'est joué à l'époque. Parmi ceux qui étaient à Monterey, il y a Bob Neuwirth, décédé le 18 mai dernier. Bob Neuwirth était un peintre, un musicien, ami de Bob Dylan et de Janis Joplin. Il fut l'un des régisseurs du Festival de Monterey. Le 11 juillet 1995, il est au micro de Jeanne-Martine Vacher pour l'émission Nocturne de France Culture.
Toute l'émergence musicale de cette époque et le fonctionnement de la scène musicale, son fonctionnement, représente bien ce qui se passait. Nous ne voulions pas contrôler le monde, simplement, nous ne voulions pas être contrôlés.
Il n'y a pas que des Américains à Monterey. La scène anglaise aussi est représentée avec ce groupe, les Who. Parmi les organisateurs et producteurs du festival figure notamment le musicien John Phillips, membre du groupe Mamas and the Papas, son manager Lou Adler et un certain Derek Taylor. Derek Taylor était un journaliste britannique exilé en Californie et il avait le téléphone des Beatles parce que Derek avait assuré leur relation presse.
Les Beatles ne sont pas présents et ne jouent pas à Monterey, mais ils sont vraiment là en arrière-plan du festival de plusieurs manières. Déjà parce que Derek Taylor appelle Paul McCartney à Londres et lui dit « Mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait programmer là pour le festival de Monterey ? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ?» Et c'est McCartney qui lui dit « Programme The Who et programme Jimi Hendrix ». Donc, il y a, ne serait-ce que dans la programmation même du festival, il y a la marque des Beatles. Et on peut aller au-delà. Une autre personnalité importante qui a joué à Monterey, dans un tout autre registre, c'est le grand sitariste indien Ravi Shankar. Et Ravi Shankar, si on commence à s'intéresser à lui en Californie et dans les milieux pop ou rock, tout simplement, c'est grâce aux Beatles et grâce à George Harrison.
En ce mois de juin 1967, trois semaines avant le festival de Monterey précisément, paraît l'album culte des Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Et sur ce disque, George Harrison a composé et interprété Within or Without You, où il a invité le sitariste indien Ravi Shankar. Qu'est-ce que la présence de Ravi Shankar au festival de Monterey raconte de l'époque? Réponse d'Anaïs Fléchet.
Alors la présence de Ravi Shankar, elle nous dit quelque chose de la manière dont les Occidentaux se sont ouverts petit à petit aux musiques extra-occidentales. Ça commence pas dans les années 1960, ça commence un peu avant. Le premier musicien occidental qui s'est intéressé véritablement à la musique indienne et qui a joué avec Ravi Shankar, c'est pas George Harrison, c'est Yehudi Menuhin, donc violoniste classique, qui va en Inde dans les années 1950, qui se prend de passion pour le yoga, pour Ravi Shankar, et qui l'invite à jouer en Angleterre. Et c'est un peu ce mouvement qu'on va retrouver chez les Beatles et sur la scène californienne à l'été 1967. C'est la volonté, au fond, de trouver de nouveaux modèles. À partir du moment où on brûle la société américaine, enfin, de manière métaphorique, et qu'on essaye d'inventer de nouveaux sons, de nouvelles manières de vivre, eh bien, on va regarder vers l'ailleurs. Et cet ailleurs, c'est principalement l'Orient, c'est principalement l'Inde. Ça s'exprime dans la musique, ça s'exprime aussi dans le graphisme, dans la fascination pour le yoga, etc. etc. Donc on va avoir une forme de rapport respectueux, mais un peu exotisant quand même, par rapport à ces musiques indiennes. Et pour Ravi Shankar, c'était quelque chose d'assez étonnant, parce que autant pour lui, jouer avec Yehudi Menuhin, ça s'inscrivait dans quelque chose de tout à fait logique, parce que Ravi Shankar est un musicien de musique classique indienne, mais être présent à Monterey, faire de la musique pop, c'était pas du tout quelque chose de naturel pour lui. Et parfois, une incompréhension par rapport à ce qui se passait, il le raconte dans ses mémoires, il était très choqué par les guitares détruites, par la guitare brûlée de Jimi Hendrix, il ne comprenait pas qu'on puisse détruire un instrument de musique.
Voici la guitare Fender Stratocaster de Jimi Hendrix qui est encore en état de fonctionnement à ce moment de son concert au Festival de Monterey.
Pour Jimi Hendrix, Monterey, c'est une forme de consécration parce que Jimi Hendrix, en fait, conquiert son public américain à Monterey. Il a déjà, bien sûr, énormément de reconnaissance côté britannique, mais c'est la première grande scène qui le propulse auprès du public américain. Et c'est bien sûr la première fois aussi où il détruit sa guitare.
Il la crame, il l'asperge d'essence, il la brûle.
C'est un des moments peut-être les plus forts du festival. Juste avant, il y avait eu The Who qui était passé. Pete Townshend avait lui aussi cassé sa guitare. Et Hendrix, un peu dans une forme de rivalité aussi avec The Who, dit « je vais y aller fort ». Effectivement, il y a toute cette interprétation magistrale de Waltzing. On le voit d'abord mimer l'acte sexuel avec sa guitare, puis finalement la sacrifier. J'utilise ce mot parce que c'est lui-même qui a dit cela, que pour lui, avoir fait brûler sa guitare comme ça, c'était une manière de faire un sacrifice, quelque chose de rituel. Donc, Jimi Hendrix, c'est là où l'aspect de révolte va être le plus présent.
On fait cramer l'ancien monde.
Exactement, c'est vraiment l'idée qu'il faut changer à 100%. Il y a un slogan de la contre-culture qu'on doit à Timothy Leary. Timothy Leary, c'était un psychiatre qui était prof à Harvard et puis qui est devenu un grand adepte du LSD. Et Timothy Leary disait « Turn on, tune in, drop out ». Allume le son, branche-toi avec tout ce qui est nouveau, et puis drop out, c'est-à-dire laisse tomber tout l'ancien monde. Donc vraiment, un changement qui est perçu ou souhaité comme étant quelque chose de radical, et avec l'idée qu'on ne reviendra pas en arrière.
Le festival de Monterey et la bande-son qu'il révèle transforment la musique en une expérience totale. avec du son, d'accord, mais aussi du happening théâtral, de la poésie, des projections lumineuses, plein de sensations qui immergent le spectateur.
Mais,
dit l'historienne Anaïs Fléché,
au-delà, il y a bien sûr aussi la drogue qui va participer de cette expérience. Donc c'est l'idée d'une altération des consciences qui permettent d'entendre quelque chose d'autre. Et d'ailleurs, le mot psychédélique même est très intéressant, qui est utilisé à l'époque pour à peu près tout. Le graphisme psychédélique, les posters, le rock psychédélique, on a des magasins psychédéliques, etc. Et si on réfléchit à l'étymologie, donc psyché, l'esprit, et délos, c'est ce qui est révélé. Donc la musique psychédélique, c'est ce qui accompagnerait les révélations de l'esprit. Donc on est bien dans le domaine de l'expérience, là, enfin d'une expérience que l'usage des drogues veut rendre ultime en quelque sorte, puisqu'il s'agit d'aller opérer une révolution dans sa propre tête, hein, « The revolution is in your mind », autre slogan de la contre-culture, et de conquérir de nouvelles frontières, qui sont les frontières de l'esprit.
Donc on rejoue le mythe américain. La nouvelle frontière, c'était aller vers l'ouest. Là, c'est plus géographique, c'est dans la tête, quoi.
Exactement, il y a une continuité, et le mythe de la frontière qui se rejoue dans ces explorations qui sont censées être permises par l'usage de drogues hallucinogènes.
Parmi les représentants de la scène rock psychédélique, il y a eux, The Grateful Dead, groupe de San Francisco installé dans l'œil du cyclone hippie, à savoir le quartier de Haight-Ashbury. Même si Monterey est une manifestation à but non lucratif, il faut payer sa place. Et dans la philosophie non consumériste des hippies, le Grateful Dead crée le premier festival off de l'histoire. Les artistes du festival officiel viennent y jouer aussi, mais là, les concerts sont gratuits.
Grateful Dead, c'est vraiment le groupe phare du rock psychédélique, en tout cas pour la scène de San Francisco. Sur le plan musical, ça se traduit déjà par l'électrification, par le fait de rompre avec le format des morceaux, le format commercial. Les chansons des Grateful Dead, c'est souvent 18, 20, 25 minutes, et c'est l'improvisation sur scène avec voilà, tout un travail sur le son des guitares, des distorsions, des boucles. Là, on est vraiment dans le cœur de ce qui fonde le rock psychédélique des Grateful Dead, et en même temps, redécouverte, puisqu'il y a aussi la fascination pour le blues, la volonté d'aller reprendre des vieux titres de blues et de les réinterpréter dans un nouvel espace sensoriel.
Finalement, l'affiche du Festival de Monterey, c'est un panorama incroyablement éclectique de la bande-son de 1967 et des années qui suivent. Rock psychédélique, pop, folk, blues, musique indienne et musique soul.
Song goes something like this. My favorite.
Celui qui incarne la soul sur la scène de Monterey, c'est lui.
La dig.
Otis Redding.
Pour Otis Redding, c'était aussi l'occasion, Monterey, de conquérir un public qui était le public des jeunes blancs américains. Ça a été aussi un moment de conquête pour Otis Redding, le fait d'être présent à Monterey. Et le sens de sa présence, c'est justement cet intérêt pour les cultures afro-américaines, pour le blues. On présente souvent le mouvement hippie comme un mouvement vraiment de blancs, de jeunes blancs venus des classes aisées américaines, sans lien avec les autres minorités. C'est une vision qui est un peu caricaturale. Mais en tout cas, Otis Redding, Sly and the Family Stone, qui a participé aussi au mouvement. On peut penser à Santana, un des rares groupes de rock psychédélique issus de la communauté latino, ont aussi été des éléments qui ont contribué à cette éclosion culturelle à l'été 67.
Oh, she may be weary. Them young girls, they do get weary. Wearing that same old miniskirt dress. Yeah, yeah, yeah. But when she gets weary, you try your little tenderness, yes, yeah, yeah, yeah. Oh, man, I know she's waiting, just anticipating the thing that she'll never, never, never possess. No, no, no. But while she's there waiting, try just a little bit of tenderness. That's all you got to do. Now it might be a little bit sentimental, no, but she has her griefs and cares. Yeah, 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 yeah. But the soft words, they are spoke so gentle. Yeah, yeah, yeah. And it makes it easier to bear. Oh, she won't regret it, no, no. And young girls, they don't forget it. Love is their whole happiness. Yes, yeah, yeah, yeah. But it's all so easy. All you got to do is try, try a little tenderness, yeah. Damn it, huh? All you got to do is know how to love her. You got to hold her, squeeze her.
Cette nuit-là, Otis Redding vient de hurler au public de Monterey « Je dois y aller, mais je n'ai pas envie ». Il meurt 6 mois plus tard, dans un accident d'avion, à l'âge de 26 ans.
France Inter. Rebecca Manzoni. Pop & Co.
Jusqu'à midi, c'est l'été de l'amour dans Pop & Co, le Summer of Love et le Festival Pop de Monterey qui ont eu lieu sur la côte californienne à l'été 1967. Parmi les grandes icônes révélées à ce moment précis, il y a une jeune fille de 24 ans. Elle déboule sur la scène de Monterey échevelée et avec une paire de mules à talons aux pieds. Elle est installée en Californie depuis quelque temps, mais elle vient du Texas. Elle s'appelle Janis Joplin. Et celle qui vous en parle, c'est toujours Anaïs Fléchet.
Janis Joplin a un rôle, bien sûr, majeur à Monterey. Pour certains, avec Jimi Hendrix, c'était vraiment la performance du festival. Et dans le cas de Janis Joplin, c'est aussi une vraie révélation parce que le public américain ne la connaît pas encore. D'ailleurs, elle n'a pas d'enregistrement de grands disques encore à cette époque. Ça viendra après et grâce à Monterey. Et Janis Joplin était redevable aux interprétations des grandes chanteuses afro-américaines, très inspirée par le blues. Et à Monterey, c'est un moment fantastique, en fait, de révélation de sa voix et de sa personne. Oui, parce qu'à Monterey, c'est quand même presque 100 000 personnes. Et des retransmissions télévisées, des retransmissions radio. Donc, c'est pour ça que c'est un moment qui concentre en réalité plusieurs phénomènes. Et pour les artistes, c'est un moment d'exposition. Et d'ailleurs, Janis Joplin a joué 2 fois à Monterey. La raison, c'est que la première fois, elle n'avait pas été filmée. Et Janis Joplin sait qu'il y a eu quelque chose de vraiment extraordinaire qui s'est passé. Le public le sait aussi. Et donc, elle ressort pratiquement en pleurs quand elle sait que la séquence n'a pas été filmée. Et là, Lou Adler, le producteur du festival, lui propose de repasser à un autre moment, le dimanche, pour pouvoir être filmée. Et c'est ce second passage dont on a conservé la mémoire audiovisuelle, en tout cas. No, this can't be in vain. Don't accident now.
people tell me what love, oh honey, what love is like. Well, it's like a ball and in a chair.
Celui qui dirige la captation du Festival de Monterey est un réalisateur qui va inventer la grammaire du concert filmé à cette occasion. Il s'appelle Don Alan Pennybaker. Pennybaker place sa caméra sur scène pour filmer à la fois le public et les artistes au plus près. Le 30 décembre 1999, il se souvient de Janis Joplin à Monterey, au micro de l'émission Décibel, diffusée sur France Culture.
Well, she was incredible, and when she...
Elle était incroyable. Elle était si excitée que l'on voyait la pointe de ses seins tendus. C'était comme une sculpture, c'était étonnant. Parce que c'était comme si elle se jetait totalement sexuellement, physiquement, sur le public. Et c'était très chaud et c'était très vulnérable en même temps. J'avais les larmes aux yeux juste en la voyant à travers la caméra. Le langage de son corps quand elle chantait, c'était comme si elle couchait avec le public tout entier. C'était étonnant à voir. Je n'avais jamais vu rien de pareil.
C'est un des aspects aussi très forts chez Janis Joplin et qui touche à une des contradictions peut-être de la contre-culture aussi, c'est que cette libération sexuelle, a priori, c'est une libération pour les hommes, mais c'est aussi une libération pour les femmes. Et c'est une affirmation à la fois d'un désir féminin, d'un plaisir, d'une jouissance qui s'exprime là musicalement et sur scène dans la performance, qui doit être... une jouissance égale pour tous. Alors pourquoi c'est une contradiction du mouvement hippie? C'est que derrière cette façade de la libération sexuelle, on sait que les hippies ont reproduit des normes relativement hétéronormées où les femmes étaient plutôt en second rang. Donc la place des femmes dans ce mouvement hippie et dans cette contre-culture, elle est relativement difficile à établir entre les discours affichés, certaines personnalités qui vont incarner un renouveau et une libération vraiment forte, comme Janis Joplin, et des réalités plus contrastées.
Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it.
Bonjour, enchanté.
Moi de même.
On est un peu en avance.
Je l'ai repéré tout de suite, avec sa crinière blanche au milieu du grand hall de la maison de la radio. Il a 86 ans et il s'appelle Jean Bouquin. Jean Bouquin est un personnage de cet été 1967, mais du côté français. Ici, il a créé la mode hippie chic, portée entre autres par Brigitte Bardot ou Jane Birkin. Si je vous ai fait écouter la bande-son éclectique de l'été de l'amour jusqu'ici, la liberté espérée se racontait aussi dans les vêtements que Jean Bouquin a inventés.
Alors les vêtements devaient respirer à une joie de vivre, donc des couleurs, de la fantaisie, que les gens puissent être enfin libres et pas engoncés. C'était parce qu'avant les gens étaient habillés normalement pour aller travailler et ils s'habillaient bien le dimanche. Et moi j'ai voulu qu'ils s'habillent tous les jours comme un dimanche et ne plus être rentrés dans les cases avec la cravate, avec tout ça, voilà. Et moi j'ai enlevé les pinces poitrine pour que les gens se libèrent et que ce ne soit plus des contrebasses.
Pour que les femmes ne soient plus des contrebasses.
Et oui, c'est-à-dire qu'on marquait bien la ceinture, la poitrine, et c'est exactement comme une contrebasse. Donc j'ai dit, on va essayer de faire que du violon.
Jean Bouquin a installé sa première boutique dans un hangar à bateau, sur le port de Saint-Tropez. Ça a eu tout de suite beaucoup de succès, notamment grâce à une cliente qui s'appelait Brigitte Bardot. Et Jean Bouquin a ouvert plusieurs magasins à Paris.
Donc d'un seul coup, ces jeunes filles viennent à la boutique et me demandent un pantalon d'homme avec braillettes. Et c'est la première fois qu'on faisait des pantalons de femmes avec braillettes. Alors que votre grand-mère ou votre mère avait la fermeture éclair sur le côté ou derrière, mais jamais devant. C'était honteux, c'était un péché. Mais elle voulait être comme un homme. Mais c'était pour avoir leur indépendance. Voilà, c'est tout.
C'est vraiment un moment où justement cette mode hippie, elle a mélangé les genres homme-femme. Parce que les hommes aussi se sont mis à adopter du costume féminin.
Vous savez, j'ai deux exemples. Mick Jagger et David Bowie. Nous sommes en 67. Il rentre dans la boutique à un rayon de femmes et un rayon d'hommes, sur le port de Saint-Tropez. Il ne va pas au rayon homme, il va dans le rayon femme et il met un pantalon de femme et il part avec. Ce n'est pas une mode, c'est une façon de vivre la liberté, de pouvoir mettre ce qu'on a envie de mettre et qu'on ne vous impose pas des quotas et des façons de s'habiller.
Bonjour, c'est Pop 2.
Le 3 juillet 1971, un événement organisé par Jean Bouquin est au programme de l'émission télé Pop 2. Entre-temps, Jean Bouquin a laissé tomber la mode pour créer un festival de musique pop. L'idée était de revivre ce qui avait été inventé à Monterey et qui avait été reproduit à Woodstock ou à l'île de Wight en Angleterre. En France, Jean Bouquin avait choisi Auvers-sur-Oise. Et le journaliste Patrice Blanc-Francard raconte.
Auvers-sur-Oise, premier festival gratuit organisé en France le vendredi matin. Une météo optimiste prévoit un week-end ensoleillé. Par groupe compact, ils arrivent, à pied pour la plupart, quelquefois de très loin, le plus souvent de Paris ou des environs. Dès midi, ils sont plusieurs milliers installés là, sur l'herbe, devant la scène. Le soleil brille encore malgré des nuages qui commencent à apparaître dans le ciel. À ce moment-là, tout est encore possible.
Vous, vous vouliez changer le monde ?
Surtout, bien sûr, je ne voulais que ça. Bien évidemment, que les gens soient heureux. Et donc, j'ai voulu faire un festival de pop musique et j'ai dit, on va faire 3 jours de musique, 3 jours de cinéma et 3 jours de culture. Et ça va être gratuit. Et à 5h du soir, les gens arrivaient de partout, en chemise, pieds nus, avec des sandalettes. Et ils arrivaient de Strasbourg, d'Allemagne et d'ailleurs, parce que d'un seul coup, c'était la liberté.
Vous espériez que ce festival, il change des choses ?
Mais il allait les changer. C'est pas qu'il allait peut-être changer, il allait changer les choses. J'avais 3000 personnes pour monter ça, des gens qui étaient bénévoles. On a fait tout ce qu'il fallait, mais c'était pas couvert. L'erreur, c'est que c'était pas couvert. Et d'un seul coup, il s'est mis à pleuvoir. Le bon Dieu n'a pas voulu. Voilà. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la sono ne marche plus et il n'y a plus de son. Puisque malheureusement, on n'était pas abrité. Alors, ils chantent a cappella, et puis on est forcé d'arrêter. Les gens continuent à arriver par les trains, papiers, partout. À 5 heures, on était 30 000. Quand je vois que c'est plus possible et que les gens arrivent et qu'ils tombent de l'eau, c'est de la terre glaise. L'eau ne s'en va pas. Donc, on était en trempe, avec des gens en petit t-shirt, torse nu, sans chaussures et un jean. On va annoncer comme quoi il faut arrêter de venir parce qu'il y a le mauvais temps qui est là et on peut plus. Je veux pas qu'il y ait un seul mort. Il n'y a pas eu un seul blessé.
Conclusion de Patrice Blanc-Francard.
Les fins de festival sont toujours un peu tristes, mais elles ont rarement ce goût d'amertume. À Auvers-sur-Oise, le festival s'est terminé sans avoir vraiment commencé.
D'autres festivals rock et pop français se mettront en place dès le début des années 70. Ici, comme partout dans le monde, c'est celui de Monterey qui en a créé la matrice. Le modèle perdure aujourd'hui encore, mais avec quelque chose en moins. L'utopie hippie, qui croyait en un monde meilleur. Mais même à Monterey, même à San Francisco, le rêve était fini dès la fin de l'été 1967. Le monde utopique n'était pas advenu. Et l'été de l'amour avait cédé la place à l'automne de la parano. L'autrice américaine Joan Didion était sur place. Dans une chronique intitulée « Requiem pour les années 60 », elle fait le portrait de jeunes paumés qui s'entassent dans des appartements crasseux à Haight Ashbury. Et dans l'un d'entre eux, elle rencontre Suzanne. Joan Didion écrit « Suzanne vit avec sa mère et d'autres gens. Elle vient d'avoir la rougeole, veut un vélo pour Noël et aime tout particulièrement le Coca-Cola, les glaces, Jefferson Airplane, le Grateful Dead et la plage. Depuis un an maintenant, sa mère lui donne de l'acide. Suzanne appelle ça « se défoncer ». Suzanne a 5 ans. Pendant ces jours-là, Joan Didion précise qu'à la radio américaine, on entendait une chanson qui disait « La société était allègre, nous changions la nuit en jour, la musique était rapide et nous dansions le plus vite possible. Mais ce qui reste, c'est un lieu sombre et vide. C'est la fin de mes espoirs. C'est la fin de mes rêves. » Ces paroles sont celles de la chanson « No Milk Today » et ça fait...
No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight. But people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace that I've been?
Merci à Anaïs Fléchet, historienne, maître de conférences à l'Université Paris-Saclay et co-autrice d'une histoire des festivals du XXe et XXIe siècle parue aux éditions de la Sorbonne. Pour écrire ce Pop & Co, on s'est servi aussi de San Francisco, l'utopie libertaire des 60s, un livre signé Steven Gézovanier, publié par Le Mot et le Reste. Quant à Monterey Pop, magnifique film de D.A. Pennybaker, tourné pendant ce festival historique, il est disponible en DVD. En 2022 apparut la reprise d'une chanson de 1967. C'est un morceau qui a été interprété par Nico et le Velvet Underground. These Days, c'est le titre, et l'interprète, c'est Cat Power.
I seem to think a lot about the things that I forgot to do. Thank you.
just that I've been losing so long. I stopped my dreaming. I won't do too much scheming these days.
C'était la dernière de Pop & Co pour cette saison 2021-2022. La semaine prochaine, c'est le début de la grille d'été. Et à 11h, vous aurez rendez-vous avec l'excellent Mishka Assayas pour une série de Very Good Trip dédiée à David Bowie. Je tiens à remercier Coy Nguyen qui a réalisé Pop & Co depuis la naissance de cette émission en septembre 2020 et qui part pour d'autres aventures à la rentrée prochaine. C'était fou et c'était bien. Il y avait Maxime Goudard à ses côtés et à la console ce matin. Un très grand merci aussi à Ilinka Negulesco qui prépare Pop & Co d'une main de maître et à JB Audibert qui assure la programmation musicale chaque semaine. Pop & Co, c'est fini maintenant, mais ça recommence à la rentrée. Le rendez-vous est donné le samedi 3 septembre, donc même motif et même heure. D'ici là, bon été !